Carnet de voyage. Une invitation.
Can't anybody see? Bonjour à tous les auditeurs de RCF La Peau Provence. Nous recevons pour ce nouveau numéro Hamid Hamidi. Bonjour.
Bonjour Gilles.
Vous venez d'Afghanistan, vous allez nous parler de votre pays. Mais avant, je voulais préciser que je démarre une série de deux spéciales sur les voyages de migrants, de réfugiés. Bien sûr, à travers ces rencontres, c'est notre rapport à l'autre, nos valeurs d'accueil, de solidarité et d'hospitalité que nous allons questionner. Et bien sûr, à partir de l'étranger au sens de Camus, qui paraît si loin et qui pourtant est si proche, puisque c'est notre prochain. Avec la sensibilité et l'écoute propre à RCF, nous rencontrons aujourd'hui donc Hamid. Vous êtes parti d'Afghanistan quand vous étiez jeune, avec votre maman et votre frère.
Ouais, j'étais 7 ans. J'étais 7 ans, j'étais très petit, mais 2001, les États-Unis qui sont entrés en Afghanistan, nous on est sortis. Avec ma famille, avec un petit frère, avec ma mère.
Et vous êtes parti parce que l'Afghanistan était en guerre?
Nous, on est parti à cause des États-Unis qui sont entrés en Afghanistan. Ils ont bombardé pour les guerres contre les talibans avec les États-Unis. Après, on n'est pas choix pour vivre. Après, on est sorti, on est parti au Pakistan. Après, on est parti en Iran. Mais ma mère, toujours, elle est là-bas avec mon petit frère.
Oui, on en parlera tout à l'heure parce que vous allez repartir les voir bientôt.
Ouais.
Comment est-ce que ça se passe pour passer de l'Afghanistan au Pakistan?
C'était très dur parce que nous, on a donné quelqu'un de l'argent pour un camion pourri jusqu'à les frontières, les Pakistanais. Après, elle était un passeport parce qu'avant, notre passeport, ça ne marche plus. On avait les guerres. Toutes les frontières s'étaient bloquées. Mais ma mère avec des autres familles, ils ont donné l'argent pour passeport et on est passé au Pakistan. C'est une ville qui s'appelle Karachi.
Votre mère et votre frère sont restés
en Iran.
En Iran.
Parce
ouais.
que pour mon frère, c'était très petit. Après, ma mère, elle est une femme. Elle ne peut pas venir jusqu'à France, jusqu'en Europe pour toutes les frontières, toutes les dons bateaux, les Méditerranées. C'est pas une.
Oui, c'est trop difficile comme voyage.
C'est très long. C'est à plein pays. Sans passeport, sans rien, ça marche plus. Après, elle est âgée. C'est pas jeune comme moi.
Et du coup, c'est vous qu'elle a choisi pour partir en Europe?
Parce que moi, je viens 15 ans. Nous, on ne peut pas obtenir les papiers en Iran. Parce que Iran, c'est un pays asiatique. Pour les femmes, ce n'est pas grave. Les Iraniens ne les cherchent pas. Mais pour les hommes, il faut qu'obtenir un papier. Mais Iran, jamais ils donnent. Pour ça que ma mère, elle m'a dit qu'après la ville vient dure, il faut que tu passes en Europe. Mais après, elle a trouvé quelqu'un passeport, elle a donné l'argent. Je suis venu en Europe.
Et pour venir en Europe, ça a été long?
C'était très dur parce que d'abord, c'était compliqué pour moi. J'étais 15 ans, j'ai laissé ma mère avec mon petit frère.
Ouais, bien sûr. Ouais.
Après, quand je suis venu les frontières de Turquie, c'était très compliqué parce que c'était l'hiver. Presque une semaine, je suis venu à pied. Après, jusqu'à c'est une ville, elle s'appelle Ven. On est dit des langues, de notre langue. Après, je ne sais pas comment on dit en français. Après, venir jusqu'à Istanbul, on était 2 jours dans le camion. Après Istanbul, ma mère, elle a trouvé quelqu'un qui a acheté un bateau, petit bateau, jusqu'à on va passer Méditerranée jusqu'en Grèce. C'est une île, elle s'appelle Mytilini, je ne sais pas en français. Après, j'étais dans un camp des migrants. Ils ont pris les mots photos, les trucs comme ça. Ils ont m'envoyé. C'est une ville, elle s'appelle Volos. C'est une maison, les Croix-Rouges, parce que j'étais mineur. Je restais là-bas jusqu'à 19 ans, jusqu'à 2012. Après, je suis parti à Patras. C'est une ville à côté, frontière, l'Italie, les bateaux qu'il va passer en Italie. Ma mère, on avait contact avec Tarnek. Elle a trouvé quelqu'un qui me met dans le camion. Après 3 jours, je suis venu au Venise d'Italie. Après, j'ai entré en France. J'étais à Paris, que la flic m'a attrapé. Elle m'a envoyé dans un prison, un foyer, que des migrants ne sont pas les papiers.
Ouais, d'accord. On va parler de votre arrivée en France et de votre arrivée à Gap surtout en deuxième partie. Mais là, on va parler d'abord de l'Afghanistan. Donc, en Afghanistan, il y a plusieurs religions. C'est un creuset de religions.
En général, c'est musulman.
La majoritaire.
Ouais. La majoritaire. Après, il y a beaucoup de religions comme les chiites, les sunnites, les ismaïls.
Il y a aussi des sikhs et des hindouistes.
Avant, il existe juifs. Quand les guerres sont venues, les juifs sont partis aux États-Unis, en Israël.
D'accord. Mais ce qui est fondamental pour comprendre l'Afghanistan, c'est les ethnies. Il y a beaucoup d'ethnies et les ethnies ne s'aiment pas beaucoup entre elles. Vous êtes de l'ethnie Hazara.
Ouais, c'est ça.
Et l'ethnie Hazara, elle n'avait pas droit à l'école, pas droit à l'administration.
30 ans avant, on n'avait pas droit à ça. Parce que toujours les présidents, les Pashtuns. Et eux, ils disent, les Hazara, ils viennent des Mogols. Parce que notre visage, comme les Asiatiques.
Oui, vous étiez considérés plutôt comme des serviteurs des autres ethnies.
Ouais, avant,
comme ceux qui portent les colis, les bagages, les choses
avant,
comme ça.
Avant, ouais, on a travaillé ça.
Ouais, maintenant, ça a beaucoup évolué. Maintenant, vous avez des hommes politiques, Hazara.
Oui, il y en a, ouais, dans le Parlement, mais pas travailler pour notre ethnie, travailler en ce moment pour leur poche.
Alors, il y a aussi plus de 40 langues qui sont parlées en Afghanistan.
Parce que les deux langues qu'on parle, Dari avec Pashto, mais après, chaque village, chaque ville, on parle différent.
Donc, par exemple, vous, votre langue, elle vient du persan. C'est comme l'ancien persan.
Nous, on dit Hazaragi. Après, quand on va à l'école, on apprend les langues d'Ari, les anciens perses. Avant, on était ensemble. Il était un pays.
Vous m'avez appris un petit mot en Hazara qui veut dire est-ce que ça va ? Chtor Hastit.
Ouais, Chtor Hastit.
Ouais, je suis pas trop loin.
C'est pas grave.
Vous m'avez dit qu'il y a beaucoup de pauvres en Afghanistan, qu'il y en a beaucoup qui dorment dehors.
Ouais, parce que ça, c'est grâce aux guerres, que ça fait 40 ans que les guerres, on est en Afghanistan. On avait des difficultés pour ça.
Les gens sont tellement pauvres qu'ils en viennent à vendre des enfants,
ouais,
pour
ça,
gagner de l'argent,
ouais, ça,
leurs propres enfants.
Ouais, souvent, oui, les mineurs, souvent, ils vendent les filles aussi, les mineurs pour des gens âgés. C'est, ouais.
Il y a une idée reçue que l'on croit pour les migrants, qu'ils sont partis de chez eux à cause de la guerre et qu'ils vont ne pas retourner chez eux. En réalité, vous aimeriez retourner chez vous si c'était en paix, si la paix revenait.
C'est car ce jour, il est marqué, si un jour l'Afghanistan il est calme, et ça veut dire qu'il va finir les guerres. Vous pouvez tourner chez vous, mais je ne crois pas. En ce moment, je n'ai pas le droit que je rentre chez moi direct. Peut-être un jour, je serai français. Peut-être que je rentre avec passeport français, mais en ce moment, pas.
Alors justement, vous allez aller voir prochainement votre maman et votre frère qui sont restés en Iran.
Oui, c'est ça.
Et là, vous allez y aller sans avoir de passeport français ni de passeport Afghanistan, avec un titre de voyage. Donc ça, c'est un peu bizarre pour nous. On a du mal à comprendre.
Quand on fait demande d'asile, ça veut dire, c'est un des réfugiés politiques. Après, nous, on ne peut pas de droit qu'en ambassade d'Afghanistan, on demande notre passeport. Parce qu'on est fini d'Afghanistan. Il faut qu'on demande un des titres de voyage, des préfectures.
D'accord. Mais avec ce titre, vous pouvez partir jusqu'en Iran et revenir en France.
Mais il faut qu'on demande un visa. Mais pas partout.
Oui, ouais, bien sûr, il y a des pays qui refusent.
Ouais,
vous êtes un réfugié. Voilà.
Exactement.
Vous êtes reconnu comme un réfugié officiel en France et ça vous autorise à partir en voyage avec ce titre de voyage. C'est formidable de pouvoir retourner voir votre maman.
Ouais, je suis content.
Alors, on va faire une petite pause musicale avec un morceau d'un instrument qui s'appelle le rubab.
Ouais, le rubab.
Qui est un instrument d'Inde du Nord et d'Afghanistan. Donc, ça ressemble un peu à un luth. Les gens jouent un peu pour les fêtes du Nouvel An.
Ouais.
Alors on écoute et ensuite on parlera de votre arrivée en France, de votre arrivée à Gap.
Thank you.
Bonjour à tous les auditeurs, nous sommes toujours avec Hamid Hamidi qui vient d'Afghanistan. Vous avez réussi à arriver à Paris où là c'était très compliqué, vous ne parliez pas français, vous n'aviez pas de logement, vous dormiez dans la rue au départ.
Ouais, quand je suis venu en France parce que tout le monde voulait partir en Angleterre, parce que les autres pays, Angleterre, nous on est pensé pour nous c'est facile parce que des gens, les Afghans, ils parlent là-bas anglais. À Paris, parce que j'ai dormi dans la rue, je ne pouvais pas parler bien la langue française.
Ouais, rien du tout.
Ouais. Après, je ne connaissais pas des personnes. J'avais beaucoup de difficultés. Presque un an, j'ai dormi dans la rue. Ce n'était pas facile.
Et ensuite, comment vous êtes arrivé à Gap?
Un jour, les policiers m'attrapaient. Ils ont envoyé dans le foyer de prison que les migrants qui sont là-bas. Tu peux faire demande d'asile en France. Après, ils m'ont laissé dans la rue. Après 3 mois, je trouvais quelqu'un iranien. Comment obtenir les papiers, comment apprendre les langues françaises. Et je trouvais un Afghan qui m'a montré les Français d'asile, où il m'a donné une conseillère, l'assistante sociale. J'ai fait un dossier pour OFRA. Nous, on n'est pas place sur Paris. Il faut vous partir à Gap parce qu'il y a beaucoup de gens.
Et du coup, quand vous êtes arrivé à Gap, vous avez rapidement réussi à apprendre le français en quelques mois?
Après 6 mois, j'ai appris. Mais j'ai des difficultés. Je ne peux pas parler comme vous parce que ça fait presque 6 ans que je suis en France. Je ne peux pas correctement.
Oui, mais si nous devions parler afghan, on ne serait pas à votre niveau, je crois. Vous avez rencontré des gens qui vous ont permis d'accéder au travail aussi. Vous avez pu faire une formation, vous êtes devenu pâtissier.
Oui, après que j'ai obtenu mon carte séjour, mon papier.
Ouais.
Après, ils m'ont dit qu'une formation, tu peux trouver travail. D'abord, j'ai commencé pour apprendre les langues françaises, au cadavre, au Croix-Rouge, au catholique, tous les centres sociaux. Toujours, je suis cherché, je parlais avec des gens. Et encore, je vais parce que j'ai des difficultés encore. J'ai trouvé travail à l'ARES. 3 semaines stage chez mon patron, que jusqu'en ce moment, je travaille chez lui.
Ouais, qui est un homme formidable puisqu'il vous a accompagné jusqu'à la fin après votre stage,
ouais,
à vous donner le travail.
Ouais, après parce que moi j'étais moi 25 ans, et j'ai proposé à lui un contrat d'apprentissage. Lui, il m'a accepté, mais merci jusqu'à lui, grâce de lui, jusqu'en ce moment, je travaille. 2 ans, j'ai fait apprentissage, j'ai eu mon CAP. Dès que j'ai fini mon CAP, lui, il m'a donné un contrat CDI.
Ah, ça, c'est formidable. Hein.
Ouais.
C'est une réussite et un paradoxe parce que vous êtes un étranger, un réfugié, et vous devenez un pâtissier qui est un peu l'emblème de la culture française. Quoi. C'est une réussite.
Ouais, c'est ça.
Il y a quelques mois, vous étiez encore sans parler français, sans travail, sans logement, sans rien.
Après, logement en France, c'est très compliqué.
Mais là, vous avez beaucoup de chance parce que vous venez de recevoir un logement en HLM.
Oui, j'ai attendu parce que j'ai pris un rendez-vous chez M. Omer. Sinon, ce n'est pas facile parce que chaque fois que je suis parti, il m'a dit « Monsieur Amélie, vous êtes célibataire, vous n'avez pas les enfants. »
Je disais même que vous n'avez pas de chien.
Oui, exactement. Si vous avez un chien, vous pouvez obtenir ce soir. Mais vous n'avez pas, malheureusement, ouais. En France, c'est comme ça. J'ai attendu 7 mois, 8 mois, ils ont donné un appartement.
Donc là, maintenant, vous êtes un homme heureux. Qu'est-ce que vous diriez comme sentiment par rapport à ce que vous avez vécu en France et à Gap? Vous êtes quelqu'un maintenant qui est quasiment intégré?
Oui, je suis d'accord, mais la vie en France, pour moi, je sens, c'est pas facile. Il faut qu'on fait combat toujours. C'est pas facile.
Oui, parce que c'est grâce à votre énergie interne que vous avez réussi à vous en sortir.
Oui, parce qu'en France, peut-être toute l'Europe, il y a beaucoup de stress. Et il faut qu'on fait combattre toujours. Il faut qu'on fait gaffe toute la vie. Parce que la vie ici, c'est pas rigolo.
Mais vous avez gardé l'espoir tout le temps. Et c'est ça qui vous a permis de vous sortir d'affaire.
On n'a pas le choix.
Quand vous êtes entré en France, c'était l'anniversaire de vos 20 ans? Presque?
Presque, oui. Parce que je me souviens, quand j'étais à la préfecture de Paris, ils m'ont demandé les dates que je suis entré en France. Elle était 28-10-2012.
Peut-être que d'ici quelques années, vous aurez le passeport français.
J'ai envoyé un dossier à la préfecture de Marseille pour naturalisation, mais j'ai passé un rendez-vous à une convocation de préfecture de Gap. J'attends pour réponse je vais passer à la préfecture de Marseille. Après, c'est pas obligé, la France n'est pas obligée qu'elle donne pour tout le monde les passeports français.
Bien sûr, mais vu votre parcours qui est incroyable, hein, puisque maintenant vous avez un travail, un logement, vous parlez français, peut-être que la préfecture sera sensible aussi à ça, à votre parcours, au fait que vous avez trouvé du travail.
Après, c'est pour naturalisation, c'est pas facile parce qu'il y a un dossier qui demande beaucoup de papiers. Avoir un travail, il faut qu'on parle bien. Après, si on ne fait pas, des crimes, des bêtises, des trucs comme ça, c'est tout qu'ils regardent pour les lois françaises, liberté, égalité, tout qu'ils demandent. Pas facile. Après, il y a des gens qui ont la chance, il y a des gens qui, ça fait 50 ans en France, encore, ils ont pas les papiers les français. Ils n'ont pas les passeports français.
D'où votre mérite d'avoir réussi à avancer, à avoir le travail, le logement, parmi beaucoup de migrants qui ne l'ont pas encore, qui sont encore en recherche.
Après, ça dépend des migrants, parce qu'en France, il y a beaucoup de chances. Si on veut, on peut obtenir. En France, il y a beaucoup de chances pour tous les migrants.
Pour ceux qui voudraient approfondir ou s'investir aux côtés des migrants, il faut rappeler qu'il y a le réseau hospitalité. Vous l'avez connu, ce réseau hospitalité?
Courses catholiques?
Oui, ils sont principalement là-bas.
Oui, je vais là-bas pour les cours, les français.
Alors, ce réseau, on peut le trouver sur Internet à réseauhospitalité.org. Il y a également une pastorale des migrants du diocèse qu'on trouve sur le site du diocèse de Gap, donc diocèsedegap.fr. On trouve également la dernière conférence du père Christian Melon sur le thème migration. Merci Hamid Hamidi pour cette rencontre. Merci d'être venu à notre micro.
Merci à vous.
Et j'espère que cette émission apportera un éclairage sur ce défi et cette responsabilité pour tous que constitue l'émigration actuelle. À bientôt.
Carnet de voyage. Une invitation.